Bonjour, mes frères et sœurs. Quelle belle vue! Je suis ravi de vous voir tous ici. À ceux que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer, je vous salue à nouveau. À ceux que je suis impatient de rencontrer et de saluer pour la première fois, je me réjouis également de vous voir. C'est un moment privilégié pour passer du temps ensemble dans la fraternité, comme jamais auparavant tout au long de l'année. C'est vraiment unique. Je suis donc heureux de vous voir tous ici, souriants, le temps est parfait, c'est vraiment une excellente fête jusqu'à présent. Vous avez bien sûr entendu parler de la fête des tabernacles, nous sommes tous ici, nous avons certainement déjà entendu ce terme, et cette fête porte également un autre nom, la fête de la récolte. La fête de la récolte. Si vous souhaitez ouvrir votre Bible au chapitre 23 de l'Exode, nous pouvons le faire. Pendant que vous le faites, je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, je vis au siège social. Plusieurs d'entre nous ici viennent du siège social. À l'origine, je viens de l'Iowa, et j'ai rencontré un autre Iowan ici. Oh! Lui et moi nous entendions très bien jusqu'à ce qu'il me dise où il était allé à l'université. Il se trouve qu'il est allé à l'université de Iowa. Vous êtes tous d'accord, n'est-ce pas? J'ai étudié à l'université d'État de Iowa. Oui, d'accord, très bien. Non, je plaisante. Cependant, je ne divulguerai pas son nom pour éviter les critiques. Je ne souhaite donc pas révéler de qui il s'agit, mais j'ai été ravi de rencontrer un compatriote de l'Iowa. Il ne réside plus dans l'Iowa, mais il souhaitait simplement s'amuser là-bas. Nous sommes, bien sûr, de très bons amis malgré notre grande rivalité. Eh bien, nous, comme je l'ai dit, je vis au siège, tout comme plusieurs d'entre nous. Et nous avons ce que nous appelons le jardin communautaire. Monsieur Garbe est ici, lui qui travaille merveilleusement bien avec ce jardin et les personnes qui y apportent leur aide, les bénévoles du jardin. Et c'est juste, excusez-moi, j'ai encore, vous savez, quelque chose depuis un petit moment. Je suis encore en train de gérer les effets résiduels. Donc, si je tousse, veuillez m'en excuser. Mais Monsieur Garbe travaille dans ce jardin communautaire depuis plusieurs années. Et cette année en particulier a été, je veux dire, abondante. Tous ceux qui sont au siège l'ont vu. Beaucoup de personnes ont aidé à entretenir ce jardin. Beaucoup de travail a été consacré à ce jardin. Sans ce travail, il n'y aurait pas eu de récolte. Il n'y aurait pas eu ces merveilleuses pêches qui sont tombées des pêchers du verger. Il n'y aurait pas eu de maïs. Il n'y aurait pas eu ces quantités impressionnantes de laitue, à tel point que nous avons dû en couper une partie, si j'ai bien compris. Il y avait tellement de laitue. Nous ne savions tout simplement pas quoi en faire. Et les récoltes se succédaient sans fin. Et finalement, cela nous ramène à la fête des récoltes à laquelle nous assistons aujourd'hui. Dans l'Antiquité, lors de cette fête des récoltes, on vous disait de prendre vos récoltes, le dixième de vos récoltes, et de venir à la fête des tabernacles avec. Et si le voyage était trop long, vous deviez transformer cette récolte, ce rendement, en offrande. Dans l'ancien Israël, on disait qu'il fallait prendre le dixième de sa récolte et l'apporter à la fête des tabernacles. Et si le voyage était trop long, on transformait cette récolte, le produit de son travail, en argent afin de pouvoir se rendre à la fête. Et c'est ce que nous faisons. Je ne vois personne apporter des brouettes de maïs. Si c'était le cas, bravo! Mais cela ne vous mènerait probablement pas très loin à cette fête. Il est préférable d'utiliser de l'argent, d'accord? Et c'est là où nous en sommes à l'époque moderne, nous apportons notre argent, mais la fête des récoltes, C'était cela au départ. Vous apportiez vos récoltes, votre moisson. Et le fait que nous ayons eu une telle abondance au siège cette année prépare en quelque sorte le terrain pour le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Vous savez, les récoltes ne poussent pas toutes seules. Les mauvaises herbes poussent toutes seules. Nous le savons tous. Mais les récoltes demandent souvent beaucoup, beaucoup de travail et d'efforts. Vous ne pouvez pas vous attendre à avoir tout un champ de maïs, ou tout un champ de haricots, ou tout un champ de « nous avons roulé jusqu'ici » de coton. Peu importe la culture, on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle pousse et donne de merveilleux fruits sans s'en occuper. Et vous avez tous entendu l'expression « on récolte ce que l'on sème ». N'est-ce pas? Combien d'entre vous ont déjà entendu cette expression? Je pense qu'il n'y a probablement personne ici qui ne l'ait jamais entendu. On récolte ce que l'on sème. Donc, si vous semez de bonnes cultures, vous obtiendrez un bon rendement. Vous pourrez récolter beaucoup. Cependant, si vous ne semez pas au bon moment, si vous ne l'arrosez pas correctement, si vous ne vous en occupez pas correctement, comme nous l'avons fait avec le jardin communautaire au siège social, nous nous en sommes occupés correctement et nous avons pu obtenir une excellente récolte. Mais au final, si vous ne faites pas cela, vous n'obtiendrez pas la même récolte. Par conséquent, vous récoltez ce que vous semez. Vous récoltez ce que vous semez. Nous sommes ici dans Exode 23, nous allons simplement lire ce verset, le verset 16, qui dit ceci. Trois fois par an, nous devons venir, nous sommes censés venir à la fête de la moisson, à la fête des prémices de vos travaux que vous avez semés dans les champs, et à la fête de la récolte. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. C'est à la fin de l'année, lorsque vous avez récolté le fruit de vos travaux dans les champs. Encore une fois, nous ne faisons pas cela aujourd'hui. Je ne vois pas tout le monde arriver avec des camions remorques remplis de produits agricoles et d'autres denrées alimentaires. Non, nous avons des restaurants, et nous transformons tous nos revenus en argent afin de pouvoir venir ici et passer un moment merveilleux ensemble. Cependant, dans l'ancien Israël, ils récoltaient physiquement ce qu'ils avaient semé plusieurs mois auparavant. Il semait plusieurs mois avant la fête des tabernacles afin de pouvoir récolter et assister à cette merveilleuse fête. Mais passons au chapitre 13 de Matthieu. Voici ce qui se passe si vous ne récoltez pas ou ne semez pas correctement. Matthieu 13. Nous connaissons tous ces paraboles, la parabole du semeur et de la graine, qui, spirituellement parlant, ont bien sûr une application. Réfléchissons-y physiquement pendant une minute. Voici ce qui se passe lorsque vous ne placez pas une graine dans le bon environnement. Si vous ne vous occupez pas correctement de la graine, que se passe-t-il? Verset 3, Matthieu 13, verset 3. Et il leur dit beaucoup de choses en parabole, en disant, « Voici, un semeur est sorti pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc, si elle ne tombe pas réellement dans le sol, elles ne produiront rien. Les oiseaux viendront les manger, puis ils pourraient se retrouver, ces oiseaux, dans d'autres endroits, et les graines se retrouveront également dans d'autres endroits. Elles pourraient y pousser, mais elles n'ont pas poussé dans le champ où le semeur voulait qu'elles poussent. Verset 5. D'autres sont tombées dans des endroits rocailleux où il n'y avait pas beaucoup de terre, et elles ont aussitôt poussé parce qu'elles n'avaient pas de profondeur de terre. Mais quand le soleil s'est levé, elles ont été brûlées. Elles ont été brûlées, desséchées, parce qu'elles n'avaient pas de racines, et elles ont dépéri. D'autres sont tombées parmi les épines, et les épines ont poussé et les ont étouffées. Avez-vous déjà essayé de planter quelque chose? C'est comme si vous plantiez quelque chose dans une forêt ou parmi d'autres plantes, vous essayez de faire pousser quelque chose, mais il y a une canopée au-dessus, il y a d'autres plantes qui poussent au-dessus, cette plante ne peut pas recevoir suffisamment de soleil, et elle va simplement étouffer et mourir. Elle ne peut rien faire. Elle n'a pas l'environnement adéquat pour vivre, pour pouvoir s'épanouir et finir par produire des fruits. Verset 8, mais il y a aussi cette catégorie. L'autre est tombée dans la bonne terre et a produit du fruit, certaines 100 fois, d'autres 60, d'autres 30. Maintenant, même si elle tombe dans la bonne terre, ce qui a été fait à cette graine après qu'elle soit tombée dans la bonne terre peut encore produire plus ou moins, selon la façon dont elle a été entretenue. Certaines 100 fois, d'autres 60, d'autres 30. Ainsi, mes frères, il est important que nous comprenions cette leçon sur les graines physiques qui sont semées, afin de bien la garder à l'esprit lorsque nous abordons ce message. Cela nous prépare au sujet que nous allons traiter aujourd'hui, à savoir, bien sûr, récolter ce que l'on sème. Cependant, cela va prendre une tournure intéressante dans un instant. Vous le découvrirez bientôt. Ouvrez votre Bible au chapitre 6 de l'Épître aux Galates. Vous savez bien sûr que dans Matthieu 13, eh bien, vous ouvrez Galates 6, bien sûr, cette parabole s'applique également sur le plan spirituel. Les graines que nous semons dans notre vie, les choses que nous faisons spirituellement dans notre vie, produiront ou non de plus grands fruits en nous personnellement, selon le temps que nous consacrons à l'étude, selon le temps que nous consacrons à la prière, ou selon la régularité avec laquelle nous jeûnons si nécessaire. Si nous méditons, si nous réfléchissons et si nous pensons à la parole de Dieu, si nous réfléchissons et si nous méditons sur ce que nous étudions, peut-être pouvons-nous rentrer chez nous après le service d'aujourd'hui, ou celui d'hier, ou celui de demain, et réfléchir à ce que nous apprenons. C'est cela, la méditation. C'est simplement prendre le temps d'y réfléchir. Plus nous faisons ces choses, plus la graine de vérité que nous avons semée et qui est entrée en contact avec nous tombera sur un sol fertile. Et cette graine ne produira pas seulement 30 ou 60 fois plus, elle pourrait produire 100 fois plus. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes ici pour produire le plus de fruits possible lors de la fête des tabernacles. Une quantité concentrée de messages chaque jour. Nous sommes ici un jour de sabbat, avec deux services, comme un jour saint. Pensez à toute la nourriture spirituelle que vous recevez. Pensez à ce que vous apprenez et à la communion que vous avez. Les liens que vous pouvez établir avec d'autres frères et sœurs en ce moment. Si vous êtes différent des autres, c'est le moment de laisser ces graines germer. Laissez la vérité pénétrer votre cœur. Laissez tout ce que vous faites pénétrer votre cœur afin que cela vous aide à produire de meilleurs fruits. Nous sommes ici dans Galates 6, verset 1. Permettez-moi de tourner la page. Galates 6, verset 1. C'est ainsi que la plupart d'entre nous concevons l'idée de semer et de récolter. C'est de là que vient ce verset. C'est de là que vient ce concept. Lisons-le. Paul s'adresse aux Galates et dit, Frères et sœurs, si un homme est surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur, en vous considérant vous-même, de peur que vous ne tombiez aussi dans la tentation. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Nous ne sommes pas chrétiens uniquement pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas ici uniquement pour notre propre salut. Nous sommes ici pour aider les autres. Nous sommes ici pour vivre une vie de générosité. Vous avez entendu M. Pacan parler sans cesse, et M. Armstrong avant lui. Nous sommes ici pour vivre une vie de générosité afin d'aider les autres à entrer dans la vie éternelle. Verset 3, Car si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Mais que chacun examine ses propres œuvres. Alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Et quoi que nous fassions dans notre vie, cela nous revient en fin de compte. Peu importe à quel point nous sommes influencés par ceux qui nous entourent ici, lors de la fête, ou dans nos congrégations, la question est finalement de savoir si nous faisons notre part. Faisons-nous tout ce que Dieu attend de nous? Le verset 6 dit ceci, que celui qui est enseigné dans la parole communique à celui qui l'enseigne toutes les bonnes choses. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car tout ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Car celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est merveilleux. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment voulu, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi, mes frères, notre objectif dans le christianisme, ou plutôt, un objectif, nous allons aborder quelque chose de fascinant dans un instant. Un objectif dans le christianisme est de moissonner éternellement ce que nous semons en nous-mêmes en ce moment. Nous essayons de semer de bons fruits dans nos vies. Nous essayons d'être des champs fertiles afin que, lorsque la vérité nous touche, nous puissions développer ses fruits. Et ces fruits sont la preuve que nous pouvons recevoir la vie éternelle et nous montrent quelle quantité de vie éternelle nous allons obtenir. Combien de gloire nous aurons, si vous voulez. Combien de livres ou combien de talents nous aurons. Ce genre de choses. Quel genre de récompense nous obtiendrons à la fin? C'est en général ainsi que nous, collectivement, dans l'Église de Dieu, et même, pourrait-on dire, de nombreux chrétiens à l'étranger, lisons ce verset. C'est un concept très courant dont on discute et auquel on réfléchit dans le christianisme. On récolte ce que l'on sème. Tout le monde le sait. La loi de cause à effet s'applique. Si vous faites quelque chose de bien dans votre vie, cela aura de bons effets. Mais si vous faites quelque chose de mal, les effets seront mauvais. Tout le monde comprend cela, mais, bien sûr, nous comprenons que parce que nous sommes en contact avec la vérité, nous recevrons en fait la vie éternelle à la fin. C'est notre grande récompense. C'est ce que nous attendons tous avec impatience. Mais est-ce tout, mes frères? Est-ce tout? Vous savez, il est écrit dans le verset 9, car, au moment voulu, nous moissonnerons, si nous ne nous relâchons pas. Le mot « relâcher » signifie se détendre. Commencez à se détendre. Nous moissonnerons, mes frères et sœurs, tant que nous ne commencerons pas à nous relâcher dans notre christianisme, dans les actions que nous accomplissons pour les autres et pour nous-mêmes, franchement. Nous ne devons pas nous relâcher dans nos bonnes actions. C'est pour notre propre bénéfice éternel. Notre vie éternelle est en jeu, et la récompense que nous recevrons dépend de la quantité de fruits que nous produirons. Mais encore une fois, je vous demande, est-ce tout ce qu'il y a à savoir sur le semis et la moisson? Est-ce tout? Je vais accomplir ces bonnes actions dans ma vie. Je vais produire ces fruits afin d'obtenir une grande récompense à la fin. Tel est mon objectif. Mon objectif est d'obtenir, vous savez, vous avez vu ses frères. Je pense que Monsieur Abouche l'a lu l'autre jour, ses frères qui se disputent pour savoir qui sera le deuxième et le troisième après Christ dans leur royaume. Quelle question présomptueuse et étonnante à poser, mais néanmoins, elle a été posée. Cependant, beaucoup d'entre nous ne pensent souvent qu'à la récompense que nous obtiendrons dans l'au-delà. Passons au chapitre 25 de Matthieu. Bien sûr, nous devons nous concentrer sur la récompense. Bien sûr, Il n'y a rien de mal à cela. Mais il existe une meilleure façon de considérer le semis et la moisson. Il existe, je dirais, une bien meilleure façon de considérer le semis et la moisson dans nos vies que de simplement penser à la récompense que nous recevrons à la fin. Cette récompense est magnifique et si spéciale, et Dieu l'a préparée pour chacun d'entre nous, mais ce n'est pas une fin en soi. Passons au chapitre 25 de Matthieu, et lisons le verset 31. C'est la parabole des brebis et des chèvres. Nous la connaissons tous, mais je vais la relire ici. Matthieu 25, verset 31. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, à ceux qui auront été bons et auront fait le bien, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. » Souvenez-vous, c'est Christ ou le Père qui parle ici. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ? Nous ne t'avons jamais vu avoir faim. Nous ne t'avons jamais nourri. Vous n'avez jamais eu soif devant nous, et nous ne vous avons jamais donné à boire. Quand vous avons-nous vu étranger et vous avons-nous accueilli, ou nu et vous avons-nous vêtu ? Quand vous avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus vers vous ? » Et le roi leur dira, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Puis il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel, car, mes frères, ces personnes n'ont pas fait ce que les justes ont fait. Elles n'ont pas regardé autour d'elles et servi les personnes qui les entouraient, et elles recevront une récompense très différente à cause de cela. » Ainsi, mes frères, nous pensons souvent à la récolte de ce que nous avons semé lors du jugement. C'est naturel. Il est très facile pour nous de penser à cela. Réfléchissez à la récompense que nous recevrons lorsque nous nous tiendrons devant Dieu et Christ. Mais avons-nous considéré que lorsque le Père et Christ viendront, ils chercheront à récolter les fruits de notre travail, et que les fruits qu'ils recherchent sont basés sur les fruits que les frères voient en vous? Les frères sont le test décisif. Le type de fruits que nous voyons les uns chez les autres est le test décisif qui déterminera si nous deviendrons des brebis ou des chèvres. Frères et sœurs, si nous nous concentrons uniquement sur l'ensemencement, en accomplissant toutes ces actions, réfléchir à l'étude de la Bible et à la prière, passer tout ce temps à mener une vie chrétienne et à faire tout ce que nous sommes censés faire pour développer notre caractère, si nous nous concentrons uniquement sur ces choses pour recevoir une récompense éternelle à la fin et c'est tout, d'une certaine manière, nous sommes un peu égoïstes, n'est-ce pas? Cependant, si nous cherchons à semer de bonnes graines dans cette vie, en nous concentrant sur le fait que d'autres récoltent ce que nous avons semé, alors nous obtiendrons à la fois une récompense temporaire et une récompense éternelle. Il existe une manière différente et meilleure de considérer le semis et la récolte, et notre objectif devrait être que les autres, vous et moi, récoltions les uns des autres ce que nous semons, et pas seulement que nous récoltions lors du jugement. Je partage ma chambre avec Monsieur Hook. Vous avez entendu l'histoire de ma fille qui a supprimé son message. Ce n'est pas bien. Mais néanmoins, nous partageons la même chambre. et il a donné un message. Nous ne sommes pas dans la même chambre. Je tiens à clarifier cela. Je viens de réaliser ce que cela pouvait laisser entendre. Nous avons notre propre chambre. Ils ont leur propre chambre. Mais il a abordé un sujet similaire lors de l'événement pour célibataires l'été dernier. Lorsque tous les célibataires sont venus au siège, ceux qui ont pu venir, il a donné une conférence sur un sujet très similaire. Il a expliqué que si vous recherchez un partenaire, une femme recherche un mari ou un mari recherche une femme, vous devez produire certains fruits afin que les autres puissent venir les cueillir. Que produisez-vous qui puisse être par exemple, cultivez-vous du maïs sur tout votre corps? Cultivez-vous diverses choses de ce genre? Visualisons cela. Que peuvent venir cueillir les autres chez vous? Si vous avez beaucoup de fruits, vous serez un bien meilleur candidat pour trouver une épouse ou un mari, n'est-ce pas? Parce que les autres voudront partager ces fruits. Ils verront ces fruits et diront, c'est une personne pieuse. Je veux passer le reste de ma vie avec cette personne. Je vois qu'elle produit de bons fruits. S'il s'approche et ne voit rien de réel. Vous savez, ces petits grains de maïs, vous les avez déjà vus? Ou, oui, je veux dire, vous ne voulez pas cela. On croque dedans et c'est tout le milieu, il n'y a pas de grain, ce n'est pas bon. Vous ne voulez pas de cela. Je ne veux pas d'un petit morceau de maïs qui pousse. Il faut donc y réfléchir. Monsieur Hook a donné un message très similaire à certains égards aux célibataires. Mais il en va de même pour nous, mes frères. Quels fruits avons-nous à offrir aux autres? C'est l'objectif. Si nous nous contentons d'attendre la résurrection, si nous attendons simplement le jugement pour que le Père et Christ viennent nous prendre tous ces fruits, tous les fruits que nous avons produits, nous ne pensons pas correctement. Nous devrions penser à nous donner mutuellement les fruits que nous avons produits. Nous devrions avoir des fruits abondants dans nos vies afin que les autres puissent en bénéficier. C'est la parabole des brebis et des boucs. Et les fruits se présentent sous des formes très variées. Pensez à tout ce qui a été dit à propos de ces brebis. Les brebis rendaient visite aux personnes en prison. Elles rendaient visite aux malades. Si vous signez cette carte, savez-vous quel type de fruits vous montrez? Vous ne passez pas simplement en disant d'accord ou en ignorant complètement. Vous laissez vos fruits être vus et partagés avec les frères. C'est tout l'intérêt de la fête des tabernacles, nous sommes ici pour partager ces fruits les uns avec les autres. Maintenant, pensez aux fruits physiques. Nous pouvons revenir à cette analogie. Encore une fois, sur le campus, nous avons ce verger. Et souvent, lorsque vous vous y rendez, vous regardez les pêchers ou les poiriers, et vous voyez des fruits qui n'ont pas, qui ont dépassé leur maturité optimale. Disons-le ainsi. Ils ont disparu. Ils sont pourris. Peut-être sont-ils tombés de l'arbre et se trouvent-ils maintenant par terre, avec des vers dedans, et on peut voir qu'ils ont été à moitié mangés par un cerf ou quelque chose comme cela. Réfléchissez donc à l'exemple physique des arbres. Les fruits, s'ils ne sont pas utilisés et consommés au bon moment, finiront par pourrir et disparaître. C'est ainsi que cela fonctionne, physiquement parlant. Les fruits ne durent pas éternellement. Ils pourrissent, meurent, se décomposent et retournent à la terre. Il en va de même pour nous sur le plan spirituel, mes frères et sœurs. Si nous n'utilisons pas les fruits que nous avons développés grâce à notre travail acharné dans l'étude de la Bible, dans la prière, dans la communion fraternelle, si nous n'utilisons pas ces fruits et ne les partageons pas avec d'autres personnes, que faisons-nous réellement au final? Nous laissons en quelque sorte ces fruits mourir sur la vigne, si vous voulez. ils ne profiteront jamais à personne. Le but de ce message n'est donc pas seulement de porter des fruits. L'objectif de ce message est de partager vos fruits. Développez-les, oui, mais partagez-les. Donnez-les à d'autres personnes. Faites-en profiter d'autres personnes. Passons au chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens. Voici pourquoi nous devons partager les fruits que nous avons produits. Éphésiens, chapitre 5. Je m'excuse, j'ai noté le mauvais verset. Galates, chapitre 5. Ce n'est pas très loin. Galates, chapitre 5. Nous allons nous arrêter au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les suivantes. Ce sont toutes les choses avec lesquelles nous avons lutté et nous nous battons encore probablement dans une certaine mesure aujourd'hui. Cependant, nous essayons de les éradiquer de nos vies afin de pouvoir produire de bons fruits. Cependant, ce sont les fruits de la nature humaine. Ce sont en quelque sorte les sumacs vénéneux qui poussent sur nous et, enfin, vous pouvez imaginer toutes sortes de choses terribles qui peuvent pousser sur vous, qui peuvent pousser hors du sol, sur vous, oui. Je dois raconter une histoire, si vous me le permettez. Cela me rappelle quelque chose. Nous sommes allés sur un terrain de golf hier, et sur ce terrain de golf, j'ai été surpris d'apprendre qu'il y avait quatre types de serpents différents. Nous avons demandé, à quelle fréquence les gens se font-ils mordre ici, sur ce terrain de golf? Il a simplement répondu, ne vous approchez pas de l'eau, n'allez pas dans les bois, ne, restez simplement partout où l'herbe est aussi haute, d'accord? Et nous avons demandé, combien de serpents avez-vous ici? Ou à quelle fréquence les gens se font-ils mordre? Oh, pas tous les jours. Vous feriez mieux de me payer pour jouer au golf ici, et non l'inverse. Pas tous les jours, que voulez-vous dire? À quelle fréquence les gens se font-ils mordre? Eh bien, une fois par mois, nous avons environ une morsure ici ou là. Et nous parlons de quatre serpents, des serpents venimeux. Nous parlons de personnes qui meurent à cause de ces morsures. Et comment cela est lié à la nature humaine? Nous parlons de choses répugnantes, comme l'adultère, la fornication, l'impureté. C'est comme les serpents. Nous ne parlons pas ici de bons fruits. Nous parlons d'une sorte de serpent dans les mauvaises herbes. D'accord. C'est le lien. Très bien. C'est parti. Galates, chapitre 5, verset 19. Voici les œuvres de la chair. Les serpents répugnants qui vous mordront dans les herbes hautes du terrain de golf. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, les querelles, les rivalités, la colère, les disputes, les divisions, les hérésies, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, et autres choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si ce sont là les fruits que nous produisons dans nos vies, il n'y a aucune chance que nous puissions récolter l'éternité. Dieu souhaite que nous récoltions les fruits suivants. Ce sont les fruits que nous sommes sur le point de récolter, que nous sommes censés avoir en abondance, que nous voyons pousser en nous comme de grosses citrouilles, de grosses pommes, ou quoi que ce soit d'autre. Ce sont les fruits que nous sommes censés produire. Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, le bonheur. Je vois beaucoup de joie dans cette salle. Je vois beaucoup de bonheur. Même malgré les événements difficiles que les frères ont traversés ces dernières semaines et ces derniers mois avec ces ouragans. C'est vraiment terrible. Au-delà de cela, Il y a d'autres épreuves et difficultés que tout le monde traverse. Mais néanmoins, je vois de la joie partout dans cette salle. La paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Si nous avons ces choses, mes frères, contre lesquelles il n'y a pas de loi, nous savons tous que les fruits de l'esprit sont destinés à notre bénéfice personnel. Il est avantageux pour nous d'avoir la paix, n'est-ce pas? Lorsque nous avons la paix, cela nous est profitable dans les moments de grande incertitude ou de difficulté. Peut-être traversons-nous une période de discorde avec notre conjoint qui n'est pas membre de l'Église ou autre. Et si nous demandons simplement la paix, Dieu nous l'accordera et nous aidera à rester calme. Il nous aidera à surmonter le stress écrasant, etc. ou, bien sûr, la tempérance. La tempérance nous aide à contrôler nos impulsions. Sans elle, nous pourrions tomber beaucoup plus facilement dans le péché personnel. Posséder ces fruits nous aide individuellement. C'est là le point important. Bien sûr, la foi nous aide à rester ferme dans les vérités que nous avons apprises et dont nous sommes assurés. Mais avons-nous considéré, frères et sœurs, avons-nous considéré que ces fruits que nous développons peuvent également être donnés aux autres pour les aider? Développons-nous la paix uniquement pour pouvoir, lorsque nous en avons besoin, demander à Dieu le don de la paix, afin que le fruit de la paix nous submerge? Nous l'avons tous fait. Nous avons tous utilisé cette merveilleuse bénédiction que Dieu nous a donnée pour simplement dire « Que la paix de Dieu règne en vous ». Nous en avons tous fait l'expérience personnellement. Mais avons-nous pensé à dire « Comment utiliser la paix pour le bien des autres ?» Comment utiliser la tempérance au profit des autres ou l'amour de Dieu au profit des autres, et pas seulement au nôtre? C'est formidable d'avoir ces fruits, mais que faisons-nous avec eux? C'est amusant. Si vous avez, prenons simplement la gentillesse, ce fruit de la gentillesse. La gentillesse est une chose merveilleuse, car lorsque vous êtes gentil avec les autres, cela les incite à être gentils eux aussi. Si vous êtes en colère et frustré envers les autres, ils se mettront sur la défensive et seront à leur tour en colère et frustrés envers vous. C'est ainsi que cela fonctionne. Donc, lorsque Dieu dit qu'il va nous donner ses fruits, il souhaite que nous les utilisions non seulement pour notre propre bénéfice, mais aussi pour le bénéfice des autres, de ceux qui nous entourent. Lorsque nous sommes bienveillants, la bienveillance peut être contagieuse. Et cela peut réellement avoir un impact sur votre vie. Si je suis aimable avec vous, cela peut avoir un impact considérable sur votre vie. Ainsi, lorsque vous recevez de la gentillesse, vous avez plus de chances d'être aimable avec les autres, et cette gentillesse se propage et est contagieuse. Ma femme a vécu une situation, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vécue. Vous passez au drive-in d'un café ou autre, et la personne devant vous, d'une manière ou d'une autre, vous arrivez à la... Vous avez déjà commandé et vous arrivez à la fenêtre, et la serveuse ou le barista ou qui que ce soit à la fenêtre vous dit « Excusez-moi, la personne devant vous a déjà payé vos boissons. C'est pour elle. Vous n'avez pas à payer aujourd'hui. Vous pouvez passer votre commande. » Eh bien, vous savez ce qui se passe quand quelqu'un fait cela? Vous répondez immédiatement, « Eh bien, écoutez, c'est formidable. Vous pouvez croire cela? Je vais payer pour la personne derrière moi. J'espère juste qu'elle n'a qu'une boisson et pas toute une famille. Je plaisante. Je plaisante. Je plaisante. Je plaisante. C'est une blague. Si vous êtes vraiment vertueux, vous direz, j'espère qu'il a 5 enfants à l'arrière et qu'ils auront tous un repas complet ou quelque chose comme cela. D'accord, mais c'est juste pour plaisanter, bien sûr. Mais ma femme dirait ceci. Le barista lui dirait, oui, c'est vrai, quelqu'un a fait cela, quelqu'un a commencé ce matin, et cela a continué tout l'après-midi. C'est littéralement une réaction en chaîne. C'est donc l'effet que peut avoir la gentillesse. Un acte de gentillesse a eu un impact sur des dizaines et des dizaines de personnes tout au long de la journée. Et cela n'a pas seulement eu un impact sur elles personnellement, où elles se sont dit, oh là là, c'est vraiment merveilleux, puis elles sont passées à autre chose. Cela les a incitées à être elles-mêmes gentilles. C'est là la clé. C'est pourquoi, mes frères, partager nos fruits avec d'autres personnes n'est pas seulement une bonne chose à faire. En réalité, cela aide les autres à obtenir une plus grande récompense. Si nous restons assis ici à penser, oh, je suis heureux. Je suis vraiment heureux d'être une personne bienveillante, et je vais recevoir la vie éternelle grâce à ma bienveillance, mais que nous ne sortons pas pour influencer les gens par notre bienveillance, qu'avons-nous réellement accompli? Sommes-nous vraiment bienveillants? Vous êtes peut-être naturellement une personne bienveillante. Je connais beaucoup de personnes qui sont naturellement très bienveillantes. Il ne leur est pas difficile de développer ce fruit. La question est donc, que faisons-nous avec cela? Allons-nous avoir un impact sur la vie des autres grâce à cela? Cela pourrait être la paix. Si quelqu'un vient vous voir et vous dit, vous restez calme même dans les situations stressantes. Comment faites-vous cela? Comment faites-vous pour être aussi serein? Comment faites-vous pour être aussi serein lorsque les choses sont stressantes? Je pense, vous savez, nous sommes au siège social et il y a beaucoup de, cela peut être très animé et il se passe beaucoup de choses, et cela peut parfois être stressant avec tout ce qui se passe. Et je sais qu'il en va de même partout où vous travaillez dans le monde. Peu importe où vous travaillez. Le stress peut survenir. Mais si vous avez la paix, savez-vous ce que cette paix peut apporter? Non seulement pour vous personnellement, mais les autres verront que vous avez la paix et ils essaieront de vous imiter. Ils diront, je veux rester calme dans les situations stressantes. Je ne veux pas être anxieux et inquiet, et écoutez, cela vous fait paraître faible lorsque vous êtes anxieux et inquiet sous pression. Mais si vous êtes en paix, cela met les autres à l'aise. Il pourrait y avoir un incendie ici, une tornade là-bas, et toutes sortes de choses terribles pourraient se produire dans votre vie. Mais si vous êtes en paix, vous pouvez également maintenir les autres en paix, plutôt que d'attiser le feu et de rendre tout le monde anxieux autour de nous. La paix engendre la paix. La gentillesse engendre la gentillesse. Et l'amour engendre l'amour. Vous pouvez prendre chacun de ces fruits de l'esprit et les appliquer, trouver des exemples et les mettre en pratique comme je vous l'explique aujourd'hui. Et je suis ici pour vous dire que cela ne concerne pas seulement les adultes. Non, vous pouvez être un adolescent, un enfant, et vous pouvez également manifester ces fruits extraordinaires. Vous n'avez peut-être pas l'Esprit de Dieu en vous, mais l'Esprit de Dieu agit en vous, c'est certain, il agit en vos parents. Permettez-moi de vous dire que certaines des actions des enfants ont un impact considérable sur nous, les adultes. Si vous venez vers moi, un garçon est venu vers moi aujourd'hui et m'a tendu la main pour me serrer la main. Je lui ai dit, merci, c'est incroyable. Tu as une excellente poignée de main. Et vous savez quoi? Cela m'a fait très plaisir. Pour lui, ce n'était peut-être rien. Il ne s'en souvient peut-être même pas. Mais je m'en souviens parce que cela m'a touché. C'est l'impact que les fruits que nous produisons peuvent avoir sur les autres. Et il n'est pas nécessaire d'être adulte. Il n'est pas nécessaire d'être baptisé. Vous pouvez avoir le même impact sur les adultes en accomplissant de petites actions. Partagez vos fruits, quels qu'ils soient. Partagez tous les fruits que vous avez. Passons au chapitre 5 de Matthieu. Chapitre 5 de Matthieu, et nous allons lire un seul verset. Nous connaissons tous les béatitudes et le sermon sur la montagne du Christ commence au verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, et excusez-moi, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Lorsque nous avons le fruit de la miséricorde, si nous avons porté ce fruit, nous devons d'abord porter le fruit. Nous ne parlons pas ici de la manière de porter ce fruit, c'est un tout autre sujet. Nous pourrions aborder l'importance de consacrer beaucoup de temps à cette graine que vous avez semée dans votre vie et de développer tous ces différents fruits, ce qu'il faut pour y parvenir. Il faut étudier la Bible, il faut prier. Nous pourrions aborder tous ces sujets. C'est un tout autre sujet. Pour l'instant, nous partons du principe que nous avons développé le fruit de la miséricorde. Nous avons développé le fruit de l'amour. La question que je nous pose est la suivante, que faisons-nous de cela? Il est dit ici que si nous sommes miséricordieux envers les autres, Dieu finira par nous montrer également sa miséricorde. Et franchement, les autres nous montreront leur miséricorde. Si nous sommes miséricordieux envers les autres, cela les encourage à être miséricordieux envers nous si nous leur avons fait du tort. Faire preuve de miséricorde ne nous apporte pas seulement une récompense éternelle, cela inspire également ceux qui nous entourent à faire preuve de miséricorde à leur tour et les aide à recevoir une plus grande récompense. Donc, ce que nous faisons, mes frères, ce n'est pas ce que ce sermon tente de faire. Ce que j'essaie de transmettre dans ce message, nous essayons de détourner notre esprit de la récompense que nous recevrons à la fin de notre vie physique lorsque nous obtiendrons le salut. Je souhaite que nous nous concentrions tous sur la récompense de chacun. Si mon objectif n'est pas seulement de m'aider à obtenir une plus grande récompense, mon objectif est de vous aider à obtenir une plus grande récompense. Bien sûr, j'obtiendrai une grande récompense pour cela. Nous n'avons pas besoin d'y penser. Je souhaite penser à votre récompense. Si je suis miséricordieux envers vous, je sais que cette miséricorde pourrait vous inspirer à être miséricordieux. Et ce faisant, je me concentre sur vous, pas sur moi. Je pense à votre récompense. Je pense à vous qui développez ce fruit maintenant. Et c'est là tout l'intérêt. Si nous pouvons nous éloigner de l'idée originale, vous connaissez l'expression « on récolte ce que l'on sème ». Je vais intituler ce sermon « qui récolte ce que vous semez ». Est-ce vous qui le récoltez? Ou est-ce d'autres personnes qui le récoltent? Ceux qui nous entourent devraient récolter ce que nous semons. Nos fruits devraient être utilisés et développés par d'autres au-delà de nous. C'est là tout l'intérêt. Donc, si nous pensons simplement à semer des graines pour récolter la vie éternelle, nous voyons beaucoup trop petit. Et au final, nous pensons de manière égoïste. Nous pensons de manière égoïste. Les véritables avantages viennent lorsque nos fruits ont un impact sur les autres. Et comment faisons-nous cela? Nous prenons nos fruits durement gagnés et nous les distribuons. Passons au chapitre 11 de l'Ecclésiaste. Chapitre 11 de l'Ecclésiaste. Commençons à lire au verset 1. Ecclésiaste 11, 1. Jette ton pain sur les eaux, car tu le retrouveras après de nombreux jours. Nous avons tous déjà entendu cette phrase. Jette ton pain sur les eaux, car tu le retrouveras après de nombreux jours. Ce que cela signifie, Et nous allons continuer à lire pour clarifier cela, c'est qu'il faut donner régulièrement sans nécessairement attendre un retour. Lorsque nous donnons nos fruits à d'autres personnes, nous n'en tirons pas toujours un bénéfice immédiat. Mais ce n'est pas le but. Le but est que nous avons donné le fruit. Nous avons fait notre part. Nous avons fait de notre mieux pour aider les autres à se développer et partager avec eux les fruits que nous avons récoltés. Nous avons jeté ce pain sur les eaux. Et après plusieurs jours, nous pourrons peut-être le récupérer. Verset 2, donne une part à 7, et même à 8. Donne-la à tous ceux que tu trouveras. Partagez votre miséricorde, partagez votre amour, partagez votre paix, partagez votre tempérance. Partagez tous les fruits que vous avez développés. Faites-les connaître, mais pas de manière moralisatrice. Je suis une personne très tempérée. J'aimerais que vous voyiez à quel point je suis tempéré. Non, c'est tout le contraire. Cela n'incitera pas les autres à devenir tempérés. Je vous le dis, cela les incitera à s'éloigner et à ne plus jamais interagir avec vous. Voilà ce qui se passera. Nous ne parlons pas ici d'arrogance. C'est tout le contraire de ce dont nous parlons. Cela a le même effet que vous feriez mieux de ne pas partager vos fruits si vous comptez agir ainsi. D'accord? Vous feriez mieux de commencer à laissez-les tomber et pourrir avant de faire preuve d'arrogance et de les imposer aux autres. Ne faites pas cela. Mais ici, il est dit, aussi souvent que possible, donnez une part à 7 et donnez une part à 8. Partagez vos fruits avec d'autres personnes partout où vous le pouvez, car vous ne savez pas quel mal s'abattra sur la terre. Si les nuages sont chargés de pluie, ils se déversent sur la terre, et si l'arbre tombe vers le sud ou vers le nord, c'est là qu'il tombera. La vie va suivre son cours, mes frères. Mais plus nous semons de bonnes graines, plus nous faisons des dépôts, si l'on peut dire. J'aime dire qu'il est bon d'avoir de bons dépôts auprès des gens. Si vous avez un dépôt auprès de quelqu'un, vous mettez un peu d'argent à la banque. Vous mettez un peu d'argent ici et un peu d'argent là. Il est bon de faire des dépôts dans une relation. Il n'est pas nécessaire que ce soit de gros dépôts, mais juste de petits dépôts. De petits dépôts dans les relations aideront à développer ces relations. Et ce sera positif. Ainsi, si le moment vient et que quelque chose se produit, vous avez maintenant toutes ces personnes merveilleuses avec lesquelles vous avez établi de bonnes relations, que vous avez inspirées de manière appropriée, qui seront là pour vous si quelque chose de mauvais arrive, ou si quelque chose ne va pas, ou si vous êtes dans le besoin, ou si elles sont dans le besoin. Vous savez, vous serez là les uns pour les autres. Verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Si nous décidons simplement de rester les bras croisés et de ne pas donner nos fruits aux autres, alors cet effet est comme le vent. Rien, cela passe, personne ne le sait, et c'est fini. Et personne n'en a profité. De même que tu ne sais pas quel est le chemin de l'esprit, ni comment les os se forment dans le sein de la femme enceinte, de même tu ne connais pas les œuvres de Dieu, qui fait tout. Le matin, sème ta semence, et le soir, ne retiens pas ta main. Car tu ne sais pas si ceci ou cela prospérera, si les deux seront semblables ou bons. Nous ne savons pas, mes frères. Nous ne pouvons pas nécessairement contrôler entièrement ce qui se passe une fois que nous avons donné nos fruits à d'autres personnes. Mais l'important est de le faire, souvent, régulièrement. Et comme il est dit, après de nombreux jours, vous le reprendrez. Avez-vous déjà fait quelque chose pour quelqu'un? Peut-être lui avez-vous simplement dit quelque chose de gentil. Peut-être avez-vous fait quelque chose pour lui. Vous l'avez complètement oublié. Vous l'avez fait parce que vous le vouliez et que vous vouliez l'aider. Mais des années plus tard, ce simple geste, cette simple phrase, ce que vous leur avez dit, pour une raison quelconque, a eu une signification si forte pour eux que, des années plus tard, ils viennent vous voir et vous disent « Merci de m'avoir dit cela. Merci d'avoir fait cela pour moi. Je m'en souviens. C'était important pour moi à ce moment-là, et vous étiez là pour m'aider. De quoi parlez-vous? Je ne me souviens pas de quoi vous parlez. Ce que c'est, mes frères, c'est vous qui jetez du pain sur les eaux. C'est vous qui laissez briller votre lumière pour illustrer le sermon. C'est vous qui donnez vos fruits à d'autres personnes dans l'espoir que cela aura peut-être un impact important sur elles, d'une manière qu'elles ne comprennent peut-être pas encore, et que vous ne comprenez pas non plus. Passons au chapitre 6 de la première épître à Timothée. Le chapitre 6 de la première épître à Timothée, verset 17, dit ceci, recommande aux riches de ce monde de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur confiance dans des richesses incertaines, mais dans l'amour de Dieu qui nous donne toutes choses en abondance pour en jouir, de faire le bien, d'être riche en bonnes œuvres, prêt à distribuer. Paul demandait à Timothée d'exhorter tous les frères avec lesquels il travaillait, de s'assurer qu'ils soient prêts à partager. Riche en bonnes œuvres. Riche en bonnes œuvres. Disposé à communiquer. Se constituant un fondement solide pour l'avenir, afin qu'ils puissent saisir la vie éternelle. Mes frères, c'est cela l'essentiel. Bien sûr, partager nos fruits avec les autres nous aidera également éternellement. C'est là le point important. Cela nous aidera, mais nous ne devons pas nous concentrer sur nous-mêmes à certains égards. Passons au chapitre 9 des Actes. Lisons un récit fascinant sur une femme dont on parle peu. Dans le chapitre 9 des Actes, nous pouvons tous tirer une leçon de cette merveilleuse sainte. Acte 9, verset 36, il y avait à Joppé une disciple nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Cette femme était pleine de bonnes œuvres et d'aumônes, pleine de tout cela. Ce mot « pleine » n'est pas, excusez-moi, ce n'est pas seulement « pleuro », qui signifie « plein » ou « complet », etc. Je pense que c'est « plé », c'est très similaire, mais différent. C'est presque une version plus forte de ce mot, et cela signifie « comblée, recouverte et complète, complète de bonnes œuvres ». Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dans votre vie qui soit recouvert et complet de bonnes œuvres? C'est un statut remarquable à atteindre. Elle était connue pour cela. Et il arriva. Verset 37. En ces jours-là, qu'elle tomba malade et mourut. Mes frères, nous avons vu mourir dans la foi des personnes merveilleuses, qui étaient des serviteurs. Et que se passe-t-il lorsqu'elle meurt? Les gens pleurent leur perte. Après l'avoir lavée, ils la déposèrent dans une chambre haute. Ils ont emmené cette dame Tabitha dans la chambre haute après sa mort. Et comme Lydda, c'était la ville, était près de Joppé, et que les disciples avaient entendu dire que Pierre était là, ils lui envoyèrent deux hommes. Ils dirent, « Allez chercher Pierre, il est à Lydda. Envoyez-le pour qu'il revienne à Joppé. » Ils souhaitaient qu'il ne tarde pas à venir vers eux. Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'il arriva, ils le conduisirent dans la chambre haute, et toutes les veuves se tenaient près de lui en pleurant. Que firent-elles? Elles lui montrèrent les manteaux et les vêtements que Dorcas avait confectionnés lorsqu'elle était avec elle. Cette femme était si généreuse qu'elle avait confectionné des vêtements pour les membres de la congrégation qu'elle connaissait et pour les autres personnes de la région. Elle avait tellement d'influence sur les autres qu'ils pleuraient tellement sa perte qu'ils apportèrent les vêtements qu'elle avait confectionnés pour eux. Au verset 40, Pierre les fit tous sortir, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux, et voyant Pierre, elle se redressa. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela les saints et les veuves, et la présenta vivante. Cela se répandit dans tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Il resta plusieurs jours à Joppé chez un certain Simon, le teneur. Elle était pleine de bonnes œuvres. Elle a vécu selon l'Ecclésiaste 11, verset 6, « Jette ton pain sur les eaux, et après plusieurs jours, tu le retrouveras. » Savez-vous ce que plusieurs jours signifiaient pour elle? Sa mort. Elle n'était même pas là pour voir la récompense. Elle n'était même pas là pour voir tous ces gens merveilleux qui sont venus et ont témoigné du fait qu'elle était une personne formidable dans sa vie. Mais nous pouvons le lire. Et elle a finalement pu le voir une fois ressuscité. Elle a vécu selon l'Ecclésiaste 11, en s'assurant chaque jour d'apporter du bien à ceux qui l'entouraient. Et ses fruits ne sont jamais morts sur la vigne. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 34. Jean 4, verset 34 dit ceci, « Jésus leur répondit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Christ n'est pas venu ici pour faire sa propre volonté. Il est venu ici pour faire celle du Père. Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois avant la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, car ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et recueille un fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Et cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Qu'est-ce que cela signifie ? Christ disait, si vous regardez ces chants proverbiaux, ces chants de personnes, si l'on peut dire, ils sont mûrs pour la moisson. Ils sont prêts à être moissonnés. Ils sont prêts à être travaillés. Et ce qu'il disait, c'est que les générations précédentes, depuis Abraham et tous ses patriarches, ont conservé la vérité à certains égards tout au long des siècles. Isaac a pu récolter les fruits qu'Abraham avait déjà commencé à semer. Jacob a pu récolter les fruits qu'Isaac a pu semer à partir d'Abraham. Et jusqu'à ce jour, mes frères, depuis des milliers d'années maintenant, nous ne sommes pas ici aujourd'hui simplement parce que, tout à coup, nous sommes si exceptionnels et si spéciaux que nous avons pu comprendre tout cela par nous-mêmes. Nous nous appuyons sur les épaules de personnes dont nous continuons à récolter les fruits. Pensez à M. Armstrong et à ce qu'il a accompli pour amener la vérité dans l'Église de Dieu. Sans M. Armstrong, aucun d'entre nous ne serait ici. Puis pensez à la tromperie qui s'est produite lors de l'apostasie et à la façon dont tout le monde a édulcoré la vérité ou l'a tout simplement abandonnée, mais M. Pack a décidé de rester ferme. Sans M. Pack, cet homme qui a décidé de rester ferme avec sa femme à ses côtés à l'époque, nous ne serions pas ici. Les fruits qu'ils ont produits. Ils ne se sont pas contentés de dire, « Oh, j'ai toute la vérité. Je vais la garder pour moi. Je ne la partagerai avec personne. » Ils l'ont partagée. Ils l'ont diffusée à l'étranger. Ils ont prêché l'Évangile. Ils ont veillé à ce que la vérité soit accessible partout où elle pouvait être trouvée, afin qu'aujourd'hui, vous et moi puissions être assis dans cette salle, obéir à Dieu et avoir une chance d'accéder à la vie éternelle. Sans cela, sans eux, ces personnes, qui remontent à très loin. Je veux dire, cela remonte aussi loin que l'œil peut voir, avant l'époque du Christ, car les champs étaient alors mûrs pour la moisson. Sans eux et les fruits qu'ils ont produits et qu'ils ont décidé, non seulement de produire, mais aussi de partager avec nous, nous ne serions pas ici. Nous ne devons jamais l'oublier. Il est facile de l'oublier. Il est facile d'entrer dans l'église de Dieu et de se dire, j'ai compris. Oh, je n'aime pas ceci, cela ou autre chose, et de se mettre soi-même hors de l'église. Pourquoi? Cette opportunité nous a été donnée, mes frères. Non pas par nous-mêmes, mais par Dieu qui nous a appelés, et Dieu, qui a œuvré à travers les personnes qu'il a appelées avant nous, afin que nous puissions vivre ce moment spécial et précieux ici, à la fête des tabernacles. Nous récoltons les fruits de ce que M. Pack et M. Armstrong, avant lui, et les saints avant eux, ont produit. Et sans ces hommes qui ont semé de bonnes graines il y a des décennies, et jusqu'à aujourd'hui, nous ne serions pas ici. Mais il en va de même pour nous personnellement, mes frères. Ne pensez-vous pas que vous pouvez avoir le même impact sur les autres que les grands personnages de la Bible ont eu sur les autres? Vous pouvez avoir le même impact. Il vous suffit de partager les fruits que vous avez produits. Ne les cachez pas sous le boisseau. Genèse, chapitre 18. Vous voulez adopter cette idée de vous tenir sur. Vous avez entendu l'expression « se tenir sur les épaules des géants ». Nous ne sommes pas arrivés ici parce que nous nous sommes soudainement élevés dans les airs. Nous nous tenons sur les épaules de personnes qui ont travaillé directement avec Dieu depuis le début, y compris Abraham. Genèse, chapitre 18. Genèse, chapitre 18. Vous voulez voir ce qu'une simple générosité envers quelqu'un d'autre, envers d'autres personnes, a pu accomplir? C'est l'impact que nos petites actions peuvent finalement avoir. Laissez-moi vous montrer. Verset 1. Genèse 18, verset 1. L'Éternel lui apparut dans les plaines de Mamré, Abraham, et il s'assit à l'entrée de la tente, au plus chaud du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes se tenaient près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente, se prosterna à terre et dit, « Mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, ne passez pas sans vous arrêter, ne passez pas simplement devant ma maison et continuez votre voyage, je vous en prie, de la part de votre serviteur. Je vous prie de bien vouloir vous laisser apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous reposer sous l'arbre. Restez un peu, laissez-moi vous servir, laissez-moi vous apporter de l'eau, laissez-moi vous laver les pieds et ma femme viendra vous aider également. » Abraham se hâta d'entrer dans la tente vers Sarah et dit, « Prépare vite trois mesures de farine fine et fais des gâteaux sur la plaque. » Elle lui fit très vite du pain cuit. Il prit du beurre et du lait, et le veau qu'il avait préparé, et les plaça devant eux. Il se tint près d'eux sous l'arbre, et ils mangèrent. Ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est dans la tente. » Il dit, « Je reviendrai vers vous au temps de la vie. Et voici, ta femme Sarah aura un fils. Qui est-ce ? Isaac. » Et Sarah entendit cela à l'entrée de la tente, derrière lui. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir les fonctions propres aux femmes. C'est pourquoi Sarah rit en elle-même, en disant, « Après avoir vieilli, aurai-je encore du plaisir avec mon Seigneur Abraham, qui est aussi vieux ?» Et le Seigneur dit à Abraham, « Pourquoi Sarah t'elle rit ?» en disant, « Est-ce que je vais vraiment avoir un enfant, alors que je suis vieille ? Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, selon le temps de la vie, et Sarah aura un fils. Permettez-moi de vous poser cette question. Je ne suis pas tout à fait certain que ce soit Dieu ou Christ qui ait parlé. Je suppose que c'était Christ, mais je n'en suis pas certain. Cela n'a pas d'importance. L'un des deux êtres divins est là, en train de parler avec Sarah et Abraham. Que se serait-il passé si Abraham avait décidé de ne pas dire au Seigneur et à ceux qui l'accompagnaient, « S'il vous plaît, arrêtez-vous dans votre voyage, venez boire un verre d'eau, laissez-moi vous laver les pieds, je vais vous apporter ce veau, asseyez-vous ici à l'ombre, nous allons nous occuper de vous. » Que se serait-il passé? La bénédiction du droit d'aînesse n'aurait pas eu lieu. Et nous savons tous que Dieu l'aurait probablement obtenu d'une autre manière. Mais pourquoi a-t-on rapporté que la grande bénédiction du droit d'aînesse accordée à Abraham concernant la naissance d'Isaac et tout le sable de la mer provenant d'Isaac et de Jacob et de tous ceux qui vivent aujourd'hui, y compris Éphraïm et Manassé et les grandes promesses faites plus tard à Éphraïm et Manassé, tout cela a commencé par un simple acte de service. Abraham a décidé de partager ses fruits avec ces personnes qui passaient, sachant que Dieu était également présent. Mais plutôt que de les laisser passer, il les a arrêtés et les a servis. C'est tout ce qu'il a fallu. Le cours de l'histoire a été changé à jamais grâce à un simple acte de gentillesse. Vous ne devez jamais l'oublier. Ne pensez-vous pas qu'un petit acte de gentillesse de votre part peut avoir? Je veux dire, aucun d'entre nous ne sera à l'abri dans la famille de Dieu. Qui sait ce qui va se passer? Mais ne pensez-vous pas qu'un petit geste de gentillesse pourrait avoir des effets considérables sur la vie d'autres personnes? Bien sûr que oui. La question est, à quelle fréquence les partageons-nous? Combien donnons-nous? Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais voici quelques moyens simples de mettre en pratique le partage des fruits de notre travail. Les fruits que nous avons travaillé dur pour développer, le caractère, si vous voulez, que nous avons commencé à développer dans nos vies. Voici quelques moyens simples de partager ces fruits et de les distribuer. Prenez la résolution de ne jamais manquer un jour de servir quelqu'un, de donner vos fruits. Prenez la résolution de ne jamais manquer un jour de faire de bonnes actions. Vous pourriez vous demander, en d'autres termes, qu'ai-je fait pour les autres aujourd'hui? Qu'ai-je fait pour les autres aujourd'hui? Suis-je à la fête parce que je veux simplement en profiter, ou suis-je à la fête parce que je pense aux autres et à leurs besoins? Peut-être que je pense à leur vie éternelle. Comment puis-je aider cette personne à atteindre la vie éternelle, une plus grande récompense pour elle-même? Vous pourriez vous demander, quels fruits mes frères ou toute autre personne autour de moi? Cela pourrait être un serveur ou une serveuse dans un restaurant ou n'importe qui d'autre. Quels fruits mes frères ou toute autre personne autour de moi ont-ils pu cueillir chez moi aujourd'hui? Mes frères, je regarde l'auditoire et je vois ici de nombreux fruits en ce moment même. Je vous l'ai déjà dit. Ils poussent en abondance en vous. Je vois des épis de maïs. Bon, en voilà un. Je vois une tête de laitue par là. Bon. Je vois quelques haricots à œil noir, quelques pommes de terre là-bas. Oui, je suis père. C'est ce qui arrive quand on devient père. Des blagues de mauvais goût. Passons au chapitre 20 de Matthieu. C'est quelque chose que j'ai développé en devenant père. Je n'avais pas cette capacité avant, mais maintenant je l'ai. Et je partage ce fruit avec vous en ce moment. Matthieu chapitre 1, verset 25. Matthieu 20 et verset 25. Mais Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que les princes des nations exercent leur domination sur elles, et que les grands exercent leur autorité sur elles. Il n'en sera pas ainsi parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre ministre, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque voudra être le chef parmi vous, qu'il soit votre serviteur. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Christ a fixé la norme quant à la fréquence à laquelle nous devons accomplir de bonnes œuvres et servir les autres, et cette norme est aussi souvent que possible. Christ a donné toute sa vie en rançon pour nous. Ainsi, vous et moi avons été rachetés et payés, et nos vies ne nous appartiennent plus. Nous sommes ici pour être des sacrifices vivants. C'est là tout l'intérêt. Donc, si nous décidons, oh, je vais juste faire une bonne action par semaine. Je vais faire quelque chose. Je vais partager mes fruits avec d'autres personnes une seule fois cette semaine, ce n'est pas suffisant. Nous devons le faire tous les jours. Et parce que nous ne sommes pas ici à la fêter, que nous ne sommes pas en contact avec les frères tous les jours, cela ne veut pas dire que d'autres dans le monde ne pourraient pas partager ces fruits, voir ces fruits. Vous pourriez encore leur être utile. Le deuxième point, une autre façon de distribuer les fruits de notre dur labeur, consiste à donner des conseils pieux. Si nous voyons quelqu'un qui est confronté à des difficultés, bien sûr, s'il s'agit d'un problème vraiment important, il convient de s'adresser au ministère. Mais si quelqu'un a simplement besoin d'un coup de pouce et de conseils sur la manière de aller le voir et encourager le, il n'est pas nécessaire d'être ministre pour donner de bons conseils à quelqu'un. Peut-être êtes-vous très compétent dans votre domaine, et quelqu'un a besoin de votre aide. Il voit que sa voiture est en panne, et vous savez réparer les moteurs, vous savez faire toutes sortes de choses en mécanique, alors aidez-le. Donnez de bons conseils. Soyez apte à enseigner. Dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 24, il est dit, en s'adressant au ministre, « Mais nous avons entendu ici, dans Matthieu 20, que nous sommes tous des ministres, que nous sommes tous des serviteurs, que nous sommes censés être aptes à enseigner, prêts à enseigner lorsque cela est nécessaire, mais aussi prêts à reconnaître lorsque quelque chose dépasse nos compétences et nos capacités et que nous ne devons pas nous en mêler et que nous devons simplement dire, il vaudrait mieux que vous alliez parler au ministre. Nous devons être prêts et disposés à aider les autres à tout moment. Et le dernier point sur la manière dont nous pouvons mieux distribuer nos fruits aux autres est d'aller au-delà, partout où nous le pouvons, d'aller au-delà. Passons au chapitre 11 de Marc. Marc 11. Nous reprendrons au verset 11. Marc 11. 11. Jésus entra dans Jérusalem et dans le temple. Il regarda tout autour de lui, et comme le soir était venu, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, quand ils furent sortis de Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il vint à l'approcher pour voir s'il y trouverait quelque chose. Mais, s'approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Ce n'était pas encore la saison des figues. Ce n'était même pas encore la saison des figues. C'est donc une parabole quelque peu étrange. Lorsque Christ vit le figuier de loin, il n'avait pas de feuilles. Verset 13. Peut-être y trouverait-il quelque chose. Et quand il arriva près de lui, il n'y trouva rien, car ce n'était pas encore la saison des figues. Et Christ fit quelque chose de curieux. Il répondit et dit au figuier, « Que personne ne mange plus jamais de tes fruits. » Et ses disciples l'entendirent. Et ils arrivèrent à Jérusalem. Et Jésus se rendit au temple et se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient, etc. Si vous descendez au verset 20, on revient au figuier. Le lendemain matin, en passant, ils virent que le figuier était desséché depuis les racines. Pierre, se souvenant, lui dit, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Et Jésus lui répondit, « Aie foi en Dieu, car je vous le dis en vérité, quiconque dira à cette montagne, sois enlevé et jeté dans la mer, et ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il a dit arrivera, il aura tout ce qu'il dit. » Et Christ continua. Mais la question qui m'a toujours préoccupé est la suivante, Pourquoi Christ a-t-il maudit cet arbre? Ce n'était même pas la saison des figues. Pourquoi l'a-t-il maudit? Et mes frères, la seule réponse à laquelle j'ai pu parvenir en discutant avec d'autres à ce sujet est que Christ voulait que cet arbre produise plus de fruits qu'il ne pouvait en produire. Mais il n'en a pas produit davantage. Réfléchissons à notre situation. Dieu veut que nous allions au-delà de ce que nous faisons. Il ne veut pas que nous nous contentions de produire le statu quo qui atteint le quota de fruits. Il veut que nous produisions davantage. La seule façon dont je peux interpréter cela, et dont nous pouvons tous l'interpréter, c'est que Christ a vu que le figuier n'allait pas au-delà de la production de fruits hors saison quand il le voulait, et donc il l'a maudit. Il ne suffit pas, mes frères, de recevoir un talent ou une livre dans notre vie, de prendre cette livre, de l'enterrer et de revenir à la résurrection, au moment du jugement, avec ce même talent entre les mains. Qu'arrive-t-il à une personne comme celle-là? Elle est écartée. Le but des paraboles des talents et des livres est que nous prenions ce que Dieu nous a donné. Cela peut être un fruit, cela peut être notre tempérance, cela peut être notre patience, et nous le développons. Maintenant, concrètement, que signifie développer ce fruit? Cela signifie que nous allons le partager avec les autres. C'est ainsi que nous développons nos talents. C'est ainsi que nous développons nos livres. C'est ainsi que vous prenez un livre et que vous le transformez en 2, 5 ou 10. Car, mes frères, vous ne profitez pas seulement à vous-même, vous ne revenez pas seulement avec ce que Dieu vous a donné. Vous revenez en ayant produit davantage de fruits chez d'autres personnes également. C'est ce que Dieu veut. C'est un plan extraordinaire que Dieu a élaboré et conçu. Ainsi, mes frères et sœurs, cette fête des récoltes est le moment idéal pour réfléchir aux fruits que nous avons produits et pour les partager les uns avec les autres. Nous devons simplement détourner complètement notre attention de la récompense éternelle que nous obtiendrons en accomplissant ces œuvres, et penser aux récompenses éternelles que les autres recevront. C'est l'objectif. Et ils les recevront parce que vous les avez partagés avec eux, vous avez partagé vos fruits. Et frères, ce faisant, cette fête sera de loin la meilleure que vous ayez jamais eue.